Bonjour, au micro Idrissa Seloudia pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. Ici aux États-Unis, Garrett Wolfe, l'ancien policier blanc, est Atlanta inculpé mercredi pour le meurtre de l'Africain-américain Rashad Brooks, abattu vendredi dans cette ville du Sud, a été placé en détention jeudi. Un second agent présent lors du drame, Devin Brosnan, inculpé pour agression, s'est également rendu à la police hier, mais a été remis en liberté sous caution, selon les médias locaux. Et à Washington, une importante responsable noire de l'administration Trump a démissionné hier en geste de protestation, a-t-elle expliqué, contre la réponse présidentielle au mouvement antiraciste sans précédent qui a secoué le pays depuis la mort de George Floyd à Minneapolis. Les commentaires et les actions du président concernant l'injustice raciale et les Noirs américains vont directement à l'encontre de mes valeurs et de mes convictions, a écrit Mary Elizabeth Taylor selon le Washington Post. Les États-Unis ont mis en doute hier la crédibilité des chiffres communiqués par la Chine au sujet du regain de cas de coronavirus à Pékin qui serait sous contrôle. Washington a appelé à l'envoi d'observateurs neutres. Le président Trump a même fois dit que le lourd bilan de la pandémie, plus de 450 800 morts à travers le monde, aurait pu être évité si la Chine avait agi de manière responsable dès l'apparition du virus dans la ville de Wuhan fin 2019. Au Burkina Faso, le président Roch Marc Christian Kabore a effectué hier une visite surprise à Djibo où il a promis le retour des forces de sécurité dans cette ville septentrionale en proie à des attaques djihadistes. Les exactions djihadistes ont fait près de 1000 morts et environ 1 million de déplacés depuis 2015 au Burkina Faso. Pour rester au Burkina, un juge a été mis en examen pour tentative d'escroquerie et diffamation et placé en détention dans le cadre d'une affaire de corruption impliquant le maire de Ouagadougou, a annoncé hier le procureur Haruna Yoda. En Côte d'Ivoire, une semaine après l'attaque djihadiste qui a tué une dizaine de militaires dans le nord du pays, l'armée poursuit son opération de ratissage dans la zone. C'est ce qu'elle a annoncé hier, avançant un bilan de 27 individus interpellés, du matériel logistique détruit et du matériel de communication saisi. Côte d'Ivoire toujours. Un glissement de terrain a emporté un hameau d'une vingtaine de maisons à Aniama, dans la banlieue nord d'Abidjan, faisant au moins 13 morts et de nombreux disparus, ensevelis sous des tonnes de boue après des pluies diluviennes ces derniers jours. Al-Qaïda au Maghreb islamique a reconnu dans une vidéo la mort de son chef, l'Algérien Abdelmalek Drokdal, annoncé par la France début juin, d'après le groupe américain SITE, spécialisé dans la surveillance des organisations djihadistes. Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, a dénoncé jeudi les mensonges de John Bolton, l'ex-conseiller du président Donald Trump en matière de sécurité nationale, qui publie un livre au vitriol contre le président des États-Unis. Dans un communiqué, il a qualifié M. Bolton de traître qui abîme l'Amérique en violant la confiance sacrée qui l'unit à son peuple. M. Pompeo ne dément toutefois pas spécifiquement un passage du livre selon lequel le secrétaire d'État américain aurait lui-même tenu des propos peu flatteurs sur M. Trump et ce, dans le dos de son patron. Dans un tweet incendiaire, le président Trump a lui qualifié M. Bolton de dingue et il a affirmé que son livre n'était qu'un tissu de mensonges et de fausses histoires. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, Washington DC.
La suite de nos informations, le nouveau président du Burundi, Évariste Ndayishimiye, un cacique du parti au pouvoir, a prêté serment hier dans le stade Ingoma de Gitega, la capitale politique. Il a rendu un hommage appuyé à son prédécesseur décédé le 8 juin dernier, Eki Abadou.
Neva, son surnom, est présenté comme l'héritier du président Nkurunziza. Après avoir prêté serment dans le stade Ingoma de Gitega, Évariste Ndayishimiye, 52 ans, a promis de continuer sur la voie tracée par son prédécesseur lors de son premier discours public depuis son élection le 20 mai. Désigné comme candidat en janvier, M. Ndayishimiye, 52 ans, est l'un des hommes clés du système. Secrétaire général du parti au pouvoir depuis 2016, il est perçu comme plus tolérant que son prédécesseur. Il avait fui le pays après le massacre des étudiants Hutus du 11 juin 1995 à l'université du Burundi par des étudiants Tutsis. Il était en deuxième année de droit quand il a rejoint la rébellion Hutu du CNDD-FDD. Il faisait partie de l'équipe des négociateurs du groupe rebelle lors de la signature en 2003 de l'accord de cessez-le-feu. Il a occupé ensuite plusieurs postes de haut niveau au sein du gouvernement. Ceux qui l'ont côtoyé depuis cette époque brossent le portrait de quelqu'un de simple et tolérant. Monsieur Ndayishimiye est un croyant et pratiquant de confession catholique. Son profil plutôt modéré pourrait aussi lui valoir une certaine bienveillance de la communauté internationale et l'aider à briser un peu l'isolement du pays. Il a dénoncé aussi les ingérences extérieures hier dans son discours d'investiture.
Nouveau massacre dans l'est de la RDC. Au moins 9 personnes ont été tuées par des milices dans le Nord Kivu et en Ituri. Le point avec Abdourahmane Dia.
Dans le Nord Kivu, 4 personnes ont été tuées dans le territoire de Beni, selon l'administrateur de ce territoire, Dona Kibwana. Il met en cause des membres du groupe armé des forces démocratiques alliées, accusés du massacre de plus de 500 personnes depuis novembre. À Beni, l'armée a présenté à la presse 20 membres présumés de groupes armés, dont 7 membres présumés des ADF et des combattants présumés de groupes armés locaux. Elle a appelé la population à se désolidariser des ADF qui ont intensifié leurs attaques en représailles à l'offensive de l'armée contre leur base dans la région de Beni. Nous continuerons à traquer tout le monde, a assuré le général Chalingoza Nduru. Selon lui, 70% des combattants ADF sont des enfants du Congo, alors qu'à l'origine, il s'agissait d'un groupe composé essentiellement de musulmans ougandais. Plus au nord, en Ituri, 5 personnes ont également été tuées par les miliciens de la secte ethnico-mystique Codeco, d'après des membres de la société civile locale.
La Cour suprême des États-Unis a validé hier le statut protecteur de 700 000 jeunes migrants, les Dreamers, arrivés clandestinement avec leurs parents quand ils étaient enfants. Une mesure critiquée par le président Donald Trump qui voulait supprimer le programme DACA. Nathalie Barge.
Dans cette décision, le chef de la Cour suprême, John Roberts, a joint sa voix à ses 4 collègues progressistes sur 9 juges. En 2017, Donald Trump avait décidé de mettre un terme au programme DACA adopté en 2012 par Barack Obama. Saisi en urgence, des tribunaux avaient suspendu sa décision. Le gouvernement avait alors fait appel à la Cour suprême, qu'il a finalement déboutée pour des raisons de procédure. La décision qui a déclenché la colère de la Maison-Blanche a en revanche été saluée par les démocrates. En avril, les pro-DACA avaient défendu auprès de la Cour le rôle joué par ces jeunes migrants dans la crise de Covid-19. Environ 27 000 bénéficiaires du programme sont des professionnels de la santé, dont des internes et des médecins, avait-il souligné, mettant en garde contre l'impact sérieux s'ils étaient expulsés des États-Unis.
La Minute Éco et Eki Abadou.
La Minute Éco avec Eki Abadou pour VOA Afrique. Samlad Limited, la plus importante société d'assurance cotée africaine en termes de valorisation boursière, avec 7,4 milliards de dollars, a indiqué dans une note sur ses performances des 4 premiers mois de l'année que la Covid-19, avec les contraintes qu'elle impose aux États et aux entreprises, a détérioré les revenus des placements financiers effectués par les sociétés d'assurance en Afrique. L'industrie mondiale du diamant est encore très paralysée par la COVID-19. De Beers cherche à relancer les ventes ailleurs que dans la capitale du Botswana, qui vient de se reconfiner. Une quinzaine d'années après avoir installé la commercialisation de ces pierres brutes au Botswana, l'entreprise cherche des alternatives pour relancer ses ventes annuelles, quitte à rapprocher son produit de ses principaux clients en Belgique et en Inde. Le groupe audiovisuel sud-africain SABC, dans la difficulté depuis plusieurs années, a annoncé jeudi une procédure de licenciement visant quelques 600 personnes, soit environ un cinquième de sa masse salariale. La SABC, qui possède 3 chaînes de télévision et 18 radios, qui diffusent dans les 11 langues, compte 3370 employés. L'an dernier, la SABC avait été déclarée insolvable par les services de l'auditeur général, l'équivalent sud-africain de la Cour des comptes.
Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. Les avocats d'Habib Cissé, un des prévenus au procès d'un système de corruption dans l'athlétisme sur fond de dopage en Russie, ont dénoncé l'absence d'audition par les enquêteurs des athlètes russes impliqués dans des remises de fonds. C'est à son domicile qu'une note détaillant des sommes allant jusqu'à 600 000 ou 700 000 euros en face de noms d'athlètes russes soupçonnés de dopage a été retrouvée, contenant aussi la mention en anglais « full protection », entendez « protection totale ». Mercredi, le parquet a requis 4 ans de prison contre l'ancien patron de l'athlétisme mondial, Lamine Diack, et 5 pour son fils, Papa Massata, contre le père et le fils absent à son procès et contre lequel un mandat d'arrêt a été requis. Les procureurs ont aussi réclamé 500 000 euros d'amende chacun et une interdiction d'exercer dans le sport. Ils sont tous jugés à Paris pour avoir permis de retarder, à partir de 2011, des sanctions disciplinaires contre des athlètes russes soupçonnés de dopage. Et puis, l'AS Saint-Étienne a annoncé avoir dépisté 5 cas positifs au COVID-19, dont 3 parmi l'effectif professionnel. 33 joueurs de 21 membres de l'encadrement ont été testés mercredi. Jeudi, 38 tests supplémentaires ont été effectués auprès des salariés des services administratifs dont les missions sont en lien avec le secteur sportif, a précisé le club. Selon l'AS Saint-Étienne, cette campagne de dépistage démontre que les personnes testées positives ont contracté le virus pendant la période de confinement alors qu'elles n'étaient pas en contact les unes avec les autres. Les personnes concernées sont confinées à leur domicile et font l'objet d'un accompagnement par le corps médical du club en relation avec le CHU de Saint-Étienne. Elles subiront des examens supplémentaires sous 24 heures. Toujours en France, fin d'aventure entre l'international camerounais Éric-Maxime Choupo-Moting et le Paris Saint-Germain. Arrivé dans la capitale française il y a 2 ans, le Camerounais ne sera pas prolongé à la fin de son contrat le 30 juin prochain. Il a laissé un émouvant message d'adieu sur ses comptes sociaux. Merci Paris pour ces belles saisons passées dans l'un des clubs les plus magnifiques du monde. Merci aux supporters pour tout l'amour qu'ils ont apporté à ma petite personne. Merci au coach Tourelle pour la confiance qu'il m'a toujours donnée. Merci au président du Paris Saint-Germain. Merci à tous mes coéquipiers. Merci à mon épouse pour le moral et l'amour qu'elle me donne chaque jour. Merci à vous mes fans. Paris c'est magique. Ici c'est Paris. Ça donne et ça dose, a écrit Choupo-Moting. Le bilan de l'attaquant de 31 ans avec le PSG se présente comme suite. 56 matchs, 10 buts et 3 passes décisives. Il a remporté 2 titres de champion de France en 2019 et 2020. Après Nuremberg, Hambourg, Schalke 04, Mayence, Stoke City et le PSG, on saura bientôt le 7e club en professionnel pour le Camerounais.
Jacques Aristide avec vous, VO Afrique vous propose une nouvelle émission spéciale sur la maladie de Covid-19, un nouveau forum citoyen virtuel entièrement consacré à la pandémie du nouveau coronavirus à l'heure du déconfinement graduel dans de nombreux pays, y compris en Afrique. Nos invités répondent à vos questions qui touchent notamment la santé publique et l'économie. Où en est-on dans la lutte contre la maladie? Quel impact sur la vie quotidienne? Quel plan de relance de l'activité? Et comment se projette l'après-Covid? Programme spécial Covid-19, rendez-vous le samedi 20 juin et le dimanche 21 juin à 10h et 12h en temps universel sur VOA Afrique.
Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie Idrissa Sebouya. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Sénégal, les personnes vulnérables qui vivent souvent d'activités informelles sont plus que jamais menacées par l'insécurité alimentaire en cette période de pandémie. Dans la banlieue de Dakar, la situation économique et sociale est critique, avec peu d'activités et une répartition de l'aide alimentaire qui ne satisfait pas les nombreuses familles affectées par la COVID-19. De Dakar, notre correspondant Sedina Abagay.
L'insécurité alimentaire ne guette pas seulement les ménages pauvres. Dans la banlieue de Dakar, plusieurs jeunes responsables de famille sont dans l'incertitude depuis plusieurs semaines. La COVID-19 les prive de revenus, comme s'en plaint Hassane Djiba.
Ça sera difficile pour la banlieue de sortir. Il faudrait d'abord des mesures strictes et une aide de l'État. C'est-à-dire le secteur informel règne en banlieue. Il y a beaucoup de gens qui sont sur le secteur informel actuellement. Les activités sont tellement réduites. Les aides financières promises par l'État tardent à venir. Ici en banlieue, bon, ça sera difficile.
La teneur de cette aide tant attendue est critiquée par certains bénéficiaires qui la trouvent insuffisante pour 3 mois. Pape Modou Fall, habitant de Medina Gounas, affiche sa déception.
Le temps qu'on a attendu, ça ne valait pas la peine. Parce que le temps qu'on a attendu et on nous a donné des choses que moi, que je ne croyais pas que c'est ça l'aide alimentaire. Une bouteille de sept antipes, un demi sac de riz, 25 kilos sur 3 mois. Et on peut le manger même pour 10 jours. Sérieusement, à l'heure actuelle, j'attends plus rien du gouvernement. Mieux vaut prévenir que de guérir. Attendre des choses qui ne vont pas vous aider, sérieusement, ce n'est rien.
L'État a choisi l'option la plus compliquée en voulant procéder à une distribution nationale de l'aide alimentaire. C'est l'avis de Sidiki Daf, expert en gouvernance et participation populaire. Pour lui, des solutions beaucoup plus simples et transparentes étaient à la portée des autorités.
Vouloir acheminer des tonnes et des tonnes de vivres dans les 14 régions du Sénégal, c'est impossible. Il aurait été plus simple d'envoyer des bons d'achat. Franchement, c'est ça qui est le plus simple. Ou alors d'envoyer de l'argent par les e-money. Mais vraiment, c'est ça qui est le plus simple. Là, bon, j'ai entendu avant-hier le ministre chargé de la solidarité sociale dire qu'on a des difficultés. C'est normal. Mais vous voulez dispatcher des tonnes de riz, de l'huile, je crois, du savon, de la lessive, du sucre, en moins d'un mois. Depuis presque un mois et quelques, les gens qui en ont besoin n'ont rien reçu. Parce qu'en fait, c'est très mal organisé. En plus, la traçabilité pose problème.
Face aux multiples plaintes de Sénégalais, lassés d'attendre depuis bientôt 2 mois, les autorités ont reconnu des difficultés dans le paquetage des kits alimentaires causés par la rupture de certains produits. Cependant, le ministère de l'Équité sociale a assuré que cela a été réglé et qu'une bonne partie des produits sont en cours d'acheminement. Pour rappel, cette aide doit toucher 1 million de ménages vulnérables, ce qui représente environ 8 à 10 millions de Sénégalais. À Dakar, Seydina Abagay pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Au Tchad, pour faire face également à une crise alimentaire, le gouvernement a décidé de plafonner les prix de vente des produits de première nécessité dans la ville de N'Djamena pour une période de 6 mois. Une mesure qui n'est pas respectée par les commerçants. André Kodmadjingar, notre correspondant à N'Djamena.
Avec la COVID-19, les commerçants, aussitôt lorsqu'on a dit les frontières sont plus ou moins fermées, ont commencé à augmenter systématiquement leurs prix. Et c'est ce qui nous a amené à prendre des mesures pour contrer cette spéculation. Alors donc, ce n'était pas des prix imposés, c'était des prix contentiels.
Vicia Buranga, président du Conseil national de la concurrence au ministère du Commerce. Prix consensuel, mais pas évident. Nous sommes au marché cinquantenaire, l'un des vieux marchés de la capitale. Différents produits alimentaires et autres articles se vendent ici. Mais les prix sont fixés à la tête du client, sans égard des prescriptions des autorités en charge du commerce.
Ce qui a été dit par le gouvernement n'est pas respecté par certains commerçants. Parce qu'un commerçant peut vendre son paquet de sucre à 1000 francs. Un autre peut te dire 1100 francs. Un troisième te dira 1250. Et c'est vraiment regrettable.
Le commerce commerçants et ministre des commerçants. Alors, qui contrôle qui? C'est ça le problème du Tchad.
Revenu, même si c'est un agent de l'État depuis 2-3 ans, il me tient en main les papiers d'avancement, mais sans les aider financiers. C'est difficile d'avoir 2 à 3 repas dans une famille de 4-5 personnes.
Mahamat Ahmad Hassan, un commerçant rencontré devant sa boutique, justifie cette flambée de prix.
Nous, commerçants détaillants, nous payons les marchandises trop chères avec les grossistes. Par exemple, le riz de 50 kg à 20 000 francs et nous revendons soit à 20 500 ou 21 000 francs CFA. Parce qu'on a besoin aussi de bénéfices et donc on ne peut pas vendre nos produits à perte. Mais le riz de 50 kg se vend à 25 000 francs CFA. Sinon, nous appliquons les prix fixés par le gouvernement pour les autres produits alimentaires.
Dingam Nayel, Nelly Versinis et Pierre Koulousou, Dieudonné, deux membres du collectif tchadien contre la vie chère, ont des avis partagés sur la réglementation des prix des denrées de première nécessité sur les marchés.
L'État doit plutôt subventionner les anciens stocks avec les commerçants. Mais vous donnez un coup de tête brutal aux commerçants. Et vous voulez qu'ils appliquent ce que vous décidez. Non, dans ce domaine, je donne raison aux commerçants.
On se rend compte que les commerçants sont plus puissants même que l'État italien. C'est un problème qui concerne toute la couche sociale. Parce que là, nous sommes dans une période de crise sanitaire. Donc, nous sommes effectivement choqués par cette augmentation.
Pour Vicia Bouranga, président du Conseil national de la concurrence au ministère en charge du commerce, il faut passer à une vitesse supérieure pour faire appliquer cette mesure.
Ces commerçants, est-ce que c'est un défi qu'ils sont en train de lancer ou bien c'est parce qu'ils ne comprennent pas? Nous avons programmé déjà des actions. La brigade ministre de contrôle économique va descendre sur le marché pour cette fois-ci, non seulement faire de la sensibilisation, mais interpeller un certain nombre de commerçants qui n'ont pas pu respecter les mesures que nous avons prises ensemble.
Les denrées alimentaires concernées par le réajustement du prix sont entre autres le riz local, le riz importé brisure et normal, le maïs, le sorgho, la viande et le sucre pour une période de 6 mois. André Godoumadingar Ndjamena pour VO Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
Au Congo-Brazzaville, plus de 8000 réfugiés rwandais sont sans statut depuis décembre 2018. Les autorités et le HCR ayant mis en exergue la clause de cessation de ce statut. Sans document ou pièce d'identité, ces ressortissants rwandais font face à de nombreuses tracasseries. Reportage d'Arsène Séverin, notre correspondant à Brazzaville.
Nous sommes au camp de réfugiés rwandais à Kintélé, à une trentaine de kilomètres au nord de Brazzaville. Ici, près de 500 personnes y vivent et ont toutes perdu leur statut de réfugiés. Elles font alors face, depuis fin décembre 2018, aux diverses tracasseries policières. Théogène Hakim Rukundo, un habitant du camp.
Ici, nous sommes des morts vivants parce que ces cabanes que vous voyez sont érigées ici depuis 23 ans. Le processus qui a été enclenché par le HCR et l'État congolais n'a pas respecté la convention internationale en matière de droits de l'homme, en matière de statut de réfugié. Alors, nous ne pouvons pas rentrer parce que l'armée patriotique rwandaise qui nous a chassés du pays est toujours au pouvoir.
Le président de la communauté rwandaise au Congo, Aloïse Bayungana, qui habite le même camp, se plaint des tracasseries policières.
C'est-à-dire, bon, quand les réfugiés passent, la police l'arrête. Présentez-moi ta carte. La carte est expirée. Tu ne dois pas être ici. Il faut partir chez vous à l'ambassade dans votre pays. Donc, c'est pas ici. Mais à ce moment, ils demandent l'argent, 2 000, 3 000. Et puis, ou bien, quelquefois, il y a même des gens qu'on met dans les DJ, on a vu tout. Et les téléphones et tout ça là.
Les femmes plaident pour la reconnaissance des droits de leurs enfants nés sur cette terre de refuge. Angélique Karuyonga, mère de famille.
En principe, il fallait que nos enfants aussi aient le droit comme un enfant qui est né au Congo. Et que le problème des cartes nous a fait du mal et que maintenant nous n'avons pas aucune liberté pour faire quelque chose. Nos enfants aussi n'allons pas aussi. Parce qu'ils sont déjà qu'ils sont les enfants du Rwandais.
À Brazzaville, plusieurs associations suivent la situation de ces réfugiés et appellent les autorités à un traitement plus social. Alain Kombo est le président de l'Association pour les droits de l'homme et l'univers carcéral, ADUC, qui s'est saisi de l'affaire depuis 5 ans.
La grande majorité, près de 8400, n'ont pas eu le statut. Et ces réfugiés sont ici comme des clandestins parce qu'ils n'ont pas de documents fiables pour faire n'importe quelle opération au niveau de notre pays. Le problème, qu'il y ait une commission qui peut rassurer les réfugiés qui sont ici et certainement ils vont rentrer chez eux.
Pour demain 20 juin, journée internationale des réfugiés, le gouvernement, le HCR, reste sur cette clause. Pas un seul réfugié rwandais né sur le sol congolais. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24 heures sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
La décision était très attendue depuis des mois et hier, la Cour suprême des États-Unis, ici à Washington, a validé le statut de quelque 800 000 migrants bénéficiant d'un programme baptisé DACA, adopté en 2012 par le président démocrate Barack Obama. DACA protège ces migrants qui sont arrivés très jeunes ici aux États-Unis de toute expulsion. La Cour a donc jugé la décision de l'administration Trump de mettre un terme à ce programme de capricieuse et arbitraire. Écoutez la réaction de Bakary Tandia, défenseur des droits des immigrants, basé à New York.
La décision de la Cour suprême est une décision très, très, très encourageante. Comme vous le savez, il y a des dizaines de milliers de jeunes, je dirais, américains, en fait, qui sont de facto des Américains, qui étaient vraiment en ligne. Bon, ça fait plusieurs années que nous, en tant que défenseurs des droits de l'homme, nous luttons pour leur légalisation. C'est parce que le Congrès n'a pas pu prendre cette décision que le président Obama, finalement, a signé la décision qui consiste à leur permettre de vivre légalement ici, jusqu'à ce qu'une solution définitive puisse être portée à leurs problèmes. Bon, malheureusement, avec l'élection de Trump comme président des États-Unis, bon, il a voulu totalement supprimer cette protection offerte par président Obama.
Quels étaient les arguments avancés par Trump pour bloquer ce programme?
C'est quelque chose qui rentre en harmonie avec la ligne de sa campagne pour sa réélection. C'est ce qu'il avait promis, et si vous vous rappelez, il avait également promis la construction d'un mur à la frontière mexicaine pour bloquer les immigrants. Donc, toute sa politique tourne autour de ça. Tout ce qui est susceptible de faciliter sa réélection, pour lui, c'était quelque chose qu'il doit faire, c'est quelque chose qui doit constituer une priorité pour lui.
Alors, on sait que certains Africains sont souvent arrivés aux États-Unis en passant par les pays latino-américains. Est-ce qu'on sait si parmi les récipients de DACA, il y a des Africains?
Absolument, il y a des Africains. DACA concerne tout le monde, tous ceux qui répondent aux critères définis par la décision, tous ces jeunes bénéficient de DACA. Donc, il y a des Africains, il y a des Asiatiques, il y a des Latinos. DACA ne vise pas une communauté particulière, un continent particulier. Ça concerne l'ensemble des jeunes qui vivent ici aux États-Unis et qui remplissent les conditions.
Bakary Tandia, défenseur des droits des immigrants, joint à New York par Bagassi Koura.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live, en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, vous étiez en compagnie d'Idrissa Sidounia et de Michel Joseph à la